Les expériences aériennes françaises sont-elles dangereuses?
Est-il vrai que le 26 juillet 2006, une catastrophe nucléaire a été évitée de justesse en Suède? Oui, c'est parfaitement vrai.
Mais dans le bateau, là où nous sommes embarqués, il n'y aura pas de canot de sauvetage.
L'incompatibilité entre l'existence du capitalisme, la nature du capitalisme, forcément, et la gestion des problèmes écologiques.
Oh là là, il y en a des choses affichées à la poubelle.
Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue pour ce nouveau Canu Info du jeudi, avec à la technique et au micro vert écolo, Laurent, bonsoir à toi.
Bonsoir Delphine.
Nous allons parler de plein de choses ce soir, on parlera de fascisme à tous les étages, nous parlerons de guéguerre commerciale, nous irons en Chine parler de censure, nous partirons aussi au Mali, parler de la peine de mort avec Laurent, je vous parlerai d'un film sud-coréen qui s'appelle The Fake, que j'ai donc vu dans le cadre du festival Hallucination Collective. Nous parlerons de la France et d'EDF qui sont ridiculisés. Ça, c'est évidemment Laurent qui va nous parler d'énergie et d'environnement. Et puis, si on a le temps, on parlera peut-être de déconnexion et donc de Facebook. Mais pour commencer, juste deux histoires comme ça. Alors d'abord, un petit coup de gueule très, très, très personnel, je dois bien le dire. Parce qu'alors, il m'arrive d'écouter, vous savez, France Info et écouter
France... Tu devrais pas.
Oui, mais si, parce que écouter France Info, c'est comme lire le Figaro. C'est-à-dire, on lit l'ennemi. Ah ben, ça, longtemps, hein, quand même, que France Info, je vous rappelle qu'il y a une génération qui a appelé France Info France Intox pendant des années. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, France Info fait mieux que le gouvernement dans le traitement et le suivi de cette grève des cheminots. Effectivement, c'est une radio libérale, une radio des patrons, mais c'est aussi une radio dans laquelle on y attend des trolls. Les trolls, il y en a plein hein, sous les articles du Figaro.fr, en particulier des trolls de l'extrême droite. Et c'est comme ça, d'ailleurs, que France Info donne la parole à des fachos qui ne représentent personne à part eux-mêmes, hein, comme l'autre, hein, des patriotes. Franchement, il ne représente personne, celui-là. Et ben pourtant, il est souvent invité à causer et à s'exprimer sur France Info. Et puis là, on nous a beaucoup parlé d'alternatives et de blablacar, hein, pour citer cette entreprise. Plutôt que grève et revendication, quand même, il faut bien le dire. Et puis surtout, surtout, sur France Info, on a beaucoup agressé les cheminots et leurs alliés, parce que c'est tellement facile de s'en prendre aux grévistes quand soi-même, on ne fait pas grève. Rappelons qu'à France Info, à Radio France, en général, heureusement qu'il y a des techniciens et des techniciennes pour faire grève, parce qu'on ne s'attend pas à ce que les journalistes qui hurlent dès qu'on veut remettre en question leur statut de journaliste avec leur petite carte de presse, on ne s'attend pas à ce qu'ils soient solidaires, ces gens, avec les cheminots et les autres grévistes actuellement en France. Sur cette radio, on laisse les politiques mentir sans les reprendre, mais on aime bien parler sport et business, on nous parle entreprise et patron, on nous invite à des conférences entrepreneurs et même le Figaro à côté a des pages sociales. Hein, ça disparaît.
Ce que n'a plus du tout.
Le France Info. Voilà, c'est mon petit coup de gueule parce que ils ont été, je dis ils parce que pour beaucoup, ça a été des journalistes hommes, ont été très, très, très agressifs avec les cheminots et leurs alliés. Il y a un moment, je crois qu'il faut effectivement éteindre sa radio, sauf quand, comme moi, vous pouvez ensuite les critiquer. Parce que oui, dimanche, peut-être qu'autour du rôti familial ou du gratin d'endives, je ne sais pas, vous aurez envie de pouvoir répondre à ceux et celles qui vous énervent. Bon, ça, c'était mon premier point. Nous allons revenir ensuite sur d'autres informations. Mais mon deuxième point, c'est cette information qui fait beaucoup causer aujourd'hui. Je tiens à vous raconter cette petite histoire du sexisme. Ça se passe dans un autre pays bien loin de chez nous.
Et bien sexiste.
Oui. Conservateur, ce pays, c'est le Japon. Et cette affaire, elle fait beaucoup causer ici parce qu'il y a une vidéo et que nous sommes quand même dans une société où la vidéo domine aujourd'hui sur l'écrit. Et on apprend donc que mercredi, alors je vous rappelle qu'il y a décalage hein, aussi avec le Japon, le maire de la ville de Meizuru est intervenu avec un beau discours dans une arène, dans un dojo, lors d'une rencontre de sumo. Et ce maire... il s'est pris une crise cardiaque, enfin bon, son cœur a eu un petit souci, et il y avait des secouristes, hein, comme partout où il y a du sport, bah, il y a des secouristes, et ce sont des femmes qui sont intervenues pour essayer de le sauver, exactement, et puis ça n'a pas plu. Il y a un commentateur qui a pris la parole et qui a demandé... Mesdames, veuillez bien quitter le dojo, s'il vous plaît, parce que le dojo, c'est sacré. Il faut savoir que le sumo, pendant des décennies, ont été des idoles à côté. Nous, nos joueurs de football ne sont absolument rien. Et tout ça est très sacré. Il y a des croyances, des rites. Et c'est un domaine très, très, très masculin. Et ces femmes, on leur a demandé de se barrer alors qu'elles étaient quand même en train de tenter de sauver un homme. Enfin, je veux dire, il faut quand même le dire. Alors, depuis, le patron de, le chef de cette association de sumo, c'était pour dire on est bien désolé, voilà. Mais il faut savoir que quand même le conservatisme et le sexisme au Japon est très très présent. Le mouvement MeToo absolument eu beaucoup de mal à décoller sur les réseaux sociaux. Pourtant c'est un pays extrêmement connecté. Mais voilà, c'est encore une affaire de sexisme jusque dans le sport, mais chez nous aussi, hein, ça arrive assez fréquemment. Mais voilà, les traditions ont quand même la vie dure de partout.
Alors on va commencer ce Kenya Info en dehors de ton petit édito d'intro par des infos sur le fascisme que j'avais appelé fascisme à tous les étages. Le premier étage, c'est le premier arrondissement de Lyon, puisque on va reculer dans le temps de quelques semaines. Si vous vous rappelez bien, c'était dans la nuit du 16 au 17 février, le siège de la section du Parti communiste de la Croix-Rousse, qui est à l'angle de Montée de la Grande-Côte et rue Humbert-Colomès, a été attaqué. Donc ils ont cassé les vitres, etc. Alors je dis il, mais on voilà, il y a une forte présomption, voire certitude, que ce sont bien des militants d'extrême droite, puisque il y a plein de vitrines autour et c'est la seule qui a été visée. Donc c'est bien une volonté politique. Il n'y a pas qu'une seule vitre qui a été cassée, c'est une bonne partie des vitres qui ont été cassées. Donc c'est une vraie attaque politique contre le Parti communiste. Alors même si on pourrait se dire que ça pourrait venir d'un autre bord politique, on voit pas quel autre parti pourrait envoyer des nervis pour casser les fenêtres du Parti communiste. Bon, ça c'était donc en février. A priori, c'était une dizaine d'individus. Hein. Il y a eu des traces, des témoins et de la vidéosurveillance. Mais comme ils sont cagoulés, de toute façon, ça ne sert à rien. Et ben, ça a continué puisque le week-end dernier, dans la nuit du 30 au 31 mars, une dizaine d'individus sont arrivés sur les pentes de la Croix-Rousse et ont attaqué cette fois le local des syndicats de la CNT au 44 rue Burdeau, donc une autre rue juste en dessous. Alors là, volonté, alors casser la grille, on l'arrache, et puis casser la vitre, et ils ont embarqué un drapeau et une banderole. Donc bien évidemment, ça a fait beaucoup de bruit, c'est une rue qui est relativement étroite, avec des immeubles très hauts, et du coup, dès qu'on fait un bruit, ça résonne, même si c'était entre 2h et 3h du matin, ça a réveillé les gens ont vu les choses, ont appelé les flics qui sont arrivés trop tard, mais ça c'est une autre question. Et donc voilà, alors là on est sûr que ce sont bien des nervis de l'extrême droite, puisque comme ils avaient piqué une banderole, ils ont fait les malins, et quand ils ont piqué une banderole comme ça, ils se prennent en photo en la mettant à l'envers, donc ce qu'ils ont fait, place Colbert, donc voilà, et ils l'ont publié sur un site d'extrême droite qui s'appelle de Savoie, qui s'appelle Autour du Lac. Voilà, groupe associé au Baston Social, donc ce qui fait évidemment penser aux GUDE et aux autres gens de ce Baston Social, dont il y a une instance installée dans le 5e arrondissement de Lyon. Du coup, hier, rassemblement devant la CNT en soutien aux syndicalistes et à leur local détruit par, abîmé en tout cas, par l'extrême droite, et ensuite une délégation a été reçue par l'adjoint à la sécurité de la ville de Lyon.
Et là on rigole.
Voilà, au sujet justement de la demande de fermeture du Baston Social, donc l'implantation de ces mouvances d'extrême droite. Et là, effectivement, c'était a priori, d'après les copains qui en sont ressortis et qui nous ont expliqué, c'était de la rigolade. La ville de Lyon se défausse en permanence sur la préfecture. Effectivement, la préfecture a le principal pouvoir police. Mais bon, la préfecture, on la connaît. Hein, on sait qu'elle a des accointances très très fortes avec l'extrême droite. Le dernier exemple en date où on a une preuve flagrante, c'est quand les chrétiens intégristes de la fraternité Saint-Pédis étaient venus faire une manif illégale, place Colbert. Ils étaient soutenus par des militants d'extrême droite, notamment du GUDE, hein, qu'on avait reconnu. C'était interdit et la police et les gens de la préfecture étaient là. Et quand on leur parlait, ils nous disaient « Vous inquiétez pas, on gère on les gère. Effectivement, ils les ont gérés puisqu'ils leur ont permis de revenir quelques minutes plus tard attaquer la librairie La Plume Noire et les gens qui avaient dedans. Hein, donc là, on a bien compris que la préfecture les gérait, mais elle les gère pas dans le sens où on entendrait nous le mot gérer, c'est-à-dire les empêcher de nuire, elle les laisse nuire. Voilà, c'est la constatation qu'on avait fait ce jour-là, suite aux discussions avec les responsables de la préfecture. Donc, la ville de Lyon se repose en permanence sur ça, sur disant c'est la préfecture qui doit faire des choses, etc., etc. On notera quand même que malgré tout, il y a des villes, notamment Strasbourg, où les fachos se réinstallent aussi et qui ont condamné, même si c'est que symbolique au conseil municipal, ils ont condamné l'installation des fachos. Ce qu'a refusé de faire la ville de Lyon et son maire, Monsieur Kepenekian. Alors peut-être qu'il faudrait que les fachos attaquent des gens de sa communauté pour qu'ils réagissent. En tout cas, quand ça attaque d'autres communautés ou des gens de gauche, ça le fait pas réagir, M. Kepenekian. Et ça, c'est quand même très très triste, parce qu'on avait quand même beaucoup plus d'espoir en lui qu'on en a eu dans Gérard Collomb, qui a alors laissé l'extrême droite s'installer à Lyon, peut-être pour des raisons de politique, politicienne, hein, ça l'arrangeait que la gauche et l'extrême gauche aient un combat à mener contre l'extrême droite. Pendant ce temps, lui, il pouvait faire passer toutes ces mesures libérales qui ont détruit la gauche. Mais voilà, on avait un peu plus d'espoir en M. Kepenekian. Là, vraisemblablement, non. Alors, la ville dit qu'ils vont un peu embêter le bastion social en allant faire des contrôles de sécurité, des choses comme ça. Bon, c'est quand même de la gnognotte. Il n'y a pas d'attaque réelle, symbolique. Ils ne font pas de communiqué aux médias. Voilà. Ils n'assument pas du tout. Ils ne font aucun combat contre l'extrême droite. Alors, on notera quand même que le bastion social a été abîmé il y a quelques jours par, j'imagine, des militants de l'autre bord, de notre côté. Alors vous me direz, c'est pas plus intelligent d'aller détruire, abîmer les vitres du bastion social que les fachos quand ils viennent attaquer nos locaux. Le problème, c'est comme la police ne fait rien, hein, comme la préfecture ne fait rien, à un moment il va plus rester que l'action des citoyens de se défendre contre ces mouvances d'extrême droite. On sait qu'ils tournaient encore hier dans Lyon, dans le premier arrondissement. On sait qu'ils agressent des gens régulièrement. La police laisse faire. Alors on a des raisons, hein. La police, on a eu des sondages, des enquêtes qui montraient qu'il y aurait au moins 50% des policiers de base qui voteraient pour l'extrême droite, donc on comprend qu'ils laissent agir les mouvements d'extrême droite. Quant à la préfecture, c'est beaucoup moins compréhensible. Tu voulais dire quelque chose ?
Oui, c'est de toute façon, on est un certain nombre à le penser sur Lyon. C'est à nous d'agir, c'est-à-dire qu'il y a effectivement deux types d'organisations et deux types de discours. Les organisations qui souhaitent que ça soit la préfecture, qu'on aille demander à la préfecture, à la mairie, de fermer le local. Et puis d'autres organisations qui souhaitent que ça soit nous qui agissions, parce qu'on n'a pas envie que ça soit la préfecture qui aille fermer un local, tout simplement parce qu'elle ferme d'autres locaux qui sont aussi de notre bord, et qu'on est bien emmerdés par ses réactions. C'est juste pour préciser dans ton discours, parce que je sais qu'on est d'accord sur la question, mais c'est que nos éditeurs et nos auditrices entendent bien la chose. C'est-à-dire qu'il y a deux méthodes de pensée, et que c'est finalement quand l'adjoint à la sécurité a dit à nos camarades qui étaient reçus la justice allait faire son travail, mais on s'en fiche de la justice. Nous, ce qu'on veut, c'est du discours politique, c'est de l'implication, c'est ce que tu dis, toi, et c'est ça que nous n'avons pas, et c'est ça que nous attendons encore.
Voilà, tous les militants qui ont été agressés à Saint-Jean, ils n'ont jamais pu passer en justice, ils n'ont jamais gagné, enfin voilà, les fachos n'ont jamais été condamnés. Quand l'horloger de Saint-Paul se fait attaquer parce qu'il parle à des journalistes en disant qu'il est contre l'implantation de l'extrême droite dans son quartier, il se fait agresser, il se fait attaquer son horlogerie. Bon, bah c'est pareil, la police a pas arrêté, a pas fermé le local des fachos, a rien fait. Donc voilà, finalement, face à la complaisance générale des pouvoirs publics, finalement, il reste que la résistance des citoyens. Je suis pas sûr que d'aller casser comme ça soit la meilleure réaction. Peut-être qu'il faudrait faire un truc plus fort, mais la difficulté, c'est qu'on n'est pas assez nombreux pour aller les battre pour l'instant. Donc, on comprend les copains qui sont allés se venger sur ce local, finalement.
Et après, on a du mal aussi, je pense, à faire passer un discours, hein, dans les milieux militants, et d'une manière générale, sur l'importance de combattre le racisme et le fascisme, puisque ces organisations d'extrême droite sont les deux, hein, les représentent bien, ces deux histoires. Moi, lors du rassemblement, j'ai discuté avec des personnes beaucoup plus jeunes que moi qui me disaient, mais vous êtes qui? Vous êtes des fachos? Alors elle expliquait que, bah non, que nous, on est justement les gentils. Je caricature un peu mon discours, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et puis, eux me disaient, mais ouais, mais c'est bien ton truc, mais il n'y a pas vraiment beaucoup d'arabes et pas beaucoup de noirs dans ton affaire. Je disais, bah, et toi, alors pourquoi tu viens pas? Puisque la personne était rebeu et que, bah, je lui disais, bah, viens, 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 t'es jeune. jeune, t'as envie. Et quand ils me disaient, mais pourquoi vous allez pas, alors je leur expliquais l'histoire du bastion social.
Pourquoi vous allez pas casser?
Et pourquoi vous allez pas me casser? Je disais, mais tu sais, après, il y a quand même la justice, nos camarades, après, ils sont arrêtés, mais tu mets des gants, qu'on m'a dit, et puis tu mets une cagoule. Donc c'est marrant parce que, on sent qu'il y a quand même un soutien, de tas de gens, qui ne s'impliquent pas dans cette lutte, mais qui soutiennent la lutte contre le racisme, contre le fascisme et contre le bastion social à Lyon, et que les politiques, eux, regardent ailleurs, alors qu'en fait, il y a plein de gens qui soutiennent les organisations en place, qu'elles soient rouges et noires ou noires. Je voudrais aussi dire que la différence avec les autres attaques, l'attaque qui a eu lieu à la CGA, à la Plume Noire, c'est qu'il n'y a eu personne dans le local et qu'il n'y a pas de blessés et qu'il s'agit que de murs. Et que
de vitres, ouais, c'est pas
de vitres, il n'y a rien de grave. Ouais. Voilà.
Donc on va continuer avec les fachos, on va reparler, parce qu'il y a eu un petit rebondissement sur l'affaire de la fac de droit de Montpellier, puisqu'aujourd'hui, alors ça s'est sorti il y a 2-3 jours et c'est confirmé aujourd'hui, l'un des témoins étudiants qui a subi les attaques, a priori de ce qu'on appellerait des nervis de l'extrême droite, a témoigné, avait enregistré en fait cette déposition avec les forces de police, et du coup on se rend compte que les forces de police était du côté de l'extrême droite et faisait pression sur lui. Donc c'est un élément qui a été inattendu, on s'y attendait, enfin voilà, tout le monde était surpris qu'il sorte ce document audio. Ça devrait permettre à l'IGPN, la police des polices, le bœuf carotte, de faire une enquête aussi autour des forces de police. Puisque le policier a fait un entretien à violent, hein, très agressif, contre quelqu'un qui venait d'être violenté et qui venait d'être agressé. Il l'a traité de tocard, il lui a dit tu me casses les couilles, enfin on a quelques extraits comme ça. Il lui a mis la pression pour qu'il ferme sa gueule, quoi. Donc voilà, il y a c'est une nouvelle démonstration aussi de l'accointance entre les forces de police et l'extrême droite. Alors là, heureusement, il l'a enregistré. Alors même si c'est illégal, on n'a pas le droit d'enregistrer pendant qu'on parle à un policier quand on est interrogé lors d'une déposition. Mais ça ne veut pas dire que parce que cet enregistrement est illégal, qu'il ne sera pas écouté par la justice et par la police des polices. Du coup, c'est quand même une bonne nouvelle, en plus de redémontrer l'incointance police et extrême droite. Alors, je vous rappelle les faits, parce qu'on a un peu plus de certitude. Le 22 mars, donc, un amphithéâtre de l'Université de droit de Montpellier, un seul amphi, ils ne sont pas très nombreux, est occupé par des manifestants, juste après une manif. Le doyen Philippe Pétel réclame une intervention policière et il ne l'obtient pas. Et a priori, ça ne lui plaît pas. Donc l'Assemblée Générale vote l'occupation de l'amphi pour la nuit. Et du coup, vers minuit, un commando d'une dizaine d'hommes cagoulés, armés de morceaux de bois, fait éruption et tabasse et expulse les étudiants, grévistes et occupants. Alors, le problème, c'est que ces hommes cagoulés, donc, on appellera ça des nervis de l'extrême droite, vu leurs idées politiques qu'ils ont pu laisser percevoir lors de cette agression, ils sont entrés par une porte fermée. Alors depuis on sait, parce que le doyen il a avoué, alors au début il avait nié bien évidemment, mais au bout d'un moment il a avoué, c'est lui qui a ouvert la porte pour les faire entrer, donc il a fait entrer des gens. Alors lui il affirme qu'il pensait qu'il s'agissait de policiers. C'était pas très crédible, vous me direz.
Des fois, excuse-moi, mais un baqueux, on sait pas bien ce que ça ressemble par rapport à toi.
Un nervi d'extrême droite, voilà. Oui, tout à fait. Il y a une autre personne qui est mise en cause, un enseignant qui s'appelle Jean-Luc Coronel de Boissezon. Donc, vu le nom, ça vous laisse imaginer un peu le milieu social dont est issu ce sombre personnage. Il est aussi donc mis en examen comme le doyen de la faculté. Lui, il a reconnu avoir porté des coups sur les étudiants. C'est pas mal, hein, pour un prof. Un prof, il est censé aider, entourer, encadrer ses étudiants.
Pédagogie, on dit.
Voilà.
Pédagogie.
Lui, il fait de la pédagogie en tapant sur les étudiants.
C'est une méthode. Pas reconnu pour l'instant par le ministère de l'Éducation.
A priori, donc, hein, parce que les étudiants étaient de gauche et que lui, il est plutôt de l'autre côté du bord, voire de l'extrême droite, hein, a priori. Alors, on est sûr qu'il est de l'extrême droite, du coup, je vous raconterai la suite après. Donc, il a reconnu avoir porté des coups sur les étudiants. Donc, il y a aussi quand même des témoins qui expliquent qu'ils l'ont vu avec les membres du commando sur le parking. Donc il serait peut-être à l'origine de ce commando, avec ou pas la complicité du doyen. Forcément, les hommes cagoulés qui sont arrivés, ils ne sont pas venus par hasard, ils ne sont pas allés sur une porte par hasard, c'est une porte sur laquelle ils savaient qu'elle allait être ouverte. Enfin voilà, il y a forcément des complicités de l'intérieur, c'est ce que doit démontrer la justice, et ce qu'on espère elle va démontrer. Voilà. Il faut savoir que les agents de sécurité privés qui géraient l'université aussi, vous savez qu'il y a voilà, des vigiles, dont ils sont interrogés par la police parce qu'il y a un membre qui est visible sur une vidéo en train d'utiliser un taser sur un étudiant le soir de, de l'agression de ces étudiants, ce qu'il n'était pas censé faire du tout. Donc voilà, alors bien sûr les membres du commando d'extrême droite n'ont pas été reconnus parce qu'ils sont arrivés cagoulés, mais bon, en tout cas il y a de fortes présomptions qu'ils aient des liens avec le doyen et ce fameux prof, et peut-être d'autres d'ailleurs. Donc voilà, autre chose, toujours sur cette université, elle a rouvert cette semaine, mardi, mais eh ben, tout le monde n'a pas pu rentrer dedans, notamment certains profs qui avaient exprimé leur solidarité avec les étudiants. Eux, ils n'ont pas eu le droit de rentrer mardi, comme quoi hein, on est vraiment dans une fac orientée politiquement vers l'extrême droite. Quand je disais que le professeur avait été reconnu et qu'on pouvait déjà le qualifier d'extrême droite, il y a une photo où il y a quelqu'un qui lui ressemble étrangement, voire très 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 beaucoup, lors d'un rassemblement de la Ligue du Midi, donc un mouvement d'extrême droite. Et il faut savoir que après l'intervention, l'agression, tout ce qui s'est passé, il a donné une interview à un journal lancé par des copains de Marion Maréchal Le Pen, dont j'ai perdu le nom, qui s'appelle L'Incorrect, donc qui est une feuille de chou de l'extrême droite. En fait, l'objectif, c'est de rapprocher la droite et l'extrême droite de cette feuille de chou. Donc ça vous donne une idée un petit peu de l'orientation idéologique. Il est allé donner une interview chez ses amis du journal. Donc voilà, on a quand même peu de doutes sur sa couleur politique, ce monsieur Coronel de Boissezon. Voilà. En tout cas, les mobilisations dans les universités continuent. Il y a une quinzaine de facs qui bougent un petit peu. Alors, c'est souvent malheureusement un petit peu. Hein, c'est pas encore un gros mouvement contre notamment le fameux Parcoursup. Hein. Mais je pense que le mouvement est très faible parce que les lycéens n'ont pas pris l'ampleur du désastre que ça va être pour eux quand ils vont constater que leur orientation va pas être celle qu'ils ont prévue. Parce que là, personne ne sait comment ça marche, ni les profs, ni les parents, ni derrière. Il y a juste d'énormes présomptions d'un vrai choix, hein, d'une vraie sélection, notamment à la fac, mais ailleurs aussi. Et du coup, ils réagiront, et quand ils se rendront compte, ça sera malheureusement trop tard. Tout sera fait, puisque ils vont pas donner les résultats de l'orientation avant le 22 mai, normalement. C'est exprès, hein, bien évidemment, pour pas que le mouvement démarre aussi dans les lycées.
Alors si vous êtes un peu vieux, vous êtes certainement fait taper dessus par les CRS quand vous étiez étudiant lors de manifestations, oui, très certainement, ça toutes les générations y ont droit. Mais par contre, vous vous souvenez peut-être d'avoir eu aussi la possibilité de faire des choses à l'université, d'avoir des débats, des AG, de distribution de tracts, une vraie présence. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué. Par exemple à Strasbourg, ils se sont fait virer, gazer par les CRS. Donc très sincèrement, il faut quand même être très courageux et très courageuse aujourd'hui pour pouvoir aussi vouloir occuper un amphi à la fac, alors quand t'as bloqué une université, une faculté, c'est quand même pas facile, parce que tout de suite on vous envoie les bleus casqués, armés, vous gazer. Donc c'est des mouvements qui ont du mal aussi à exister, parce qu'on est dans ces sociétés macronistes, hein, il faut le dire, hein, c'est devenu un vrai adjectif où tout le monde pense que on va s'en sortir. Donc pourquoi aller se battre pour des privilèges, hein, il paraît que c'est comme ça qu'il faut les appeler, ça sert à rien, puisque de toute façon chacun va pouvoir et chacune va pouvoir se démerder. Donc il faut quand même continuer à soutenir ces étudiants et ces étudiantes qui essayent de mener des mouvements, et c'est pas facile. Voilà. Et je voudrais juste revenir sur un truc que tu as dit, mais c'est parce que parfois tu ne féminises pas ton propos. Tu as dit ils sont intervenus à la CNT, on sait par les témoignages qu'il y avait une femme nana, et qu'elle avait l'air extrêmement remontée, extrêmement active pour péter la vitre de la CNT. Voilà. C'était juste pour dire que haine n'est pas genrée, voilà, elle est bien partagée.
C'est ouvert à tous les sexes.
Voilà. Tout à fait.
Quoique, je pense que si on est trans et homo, c'est un peu plus compliqué d'intégrer des groupes d'extrême droite, puisque eux-mêmes, ils sont plutôt transphobes et homophobes. Hein. Mais on n'est pas
tout
à l'abri.
Tout à fait, on sait qu'aussi ces groupes, les nanas, peuvent y être aussi très très actives, ouais, et même dans la violence. Donc il faut arrêter d'être sexiste sur ces idées-là. Alors on va parler de toute autre chose maintenant, si vous voulez bien. Nous allons parler de guéguerre. commerciale. Vous avez certainement entendu qu'il y a une guerre lancée par M. Trump, le président des États-Unis d'Amérique, qui a décidé de réagir face au monde, pas juste face à la Corée du Nord. Hein. Mais il a plein d'idées, M. Trump, et donc il s'est lancé dans une guerre commerciale. Alors, face à l'Union Européenne, il a fait marche arrière et a donc décidé qu'il n'y aurait pas de droits de douane augmentés ou mis en place face au marché européen, parce que bon, il commençait à avoir un petit peu des réactions. Mais M. Trump et ses équipes, bien évidemment, se concentrent actuellement contre la Chine. Donc ça donne deux pays, deux puissances économiques, il faut bien le dire, qui s'affrontent depuis quelques semaines. Et ça donne un grand moment. Et donc les deux pays s'infligent, il faut bien le dire, hein, quand même, des droits de douane. Et ça représente environ 100 milliards de dollars. Ça fait 80 milliards d'euros dans les échanges commerciaux. Donc on est quand même sur une belle balance de problèmes, hein, quand même, il faut le dire. Là, ça pèse lourd, quand même, hein, ces échanges commerciaux qui sont donc visés de part et d'autre par des droits de douane. Alors, on a appris que Pékin va appliquer de nouveaux droits de douane à 106 catégories de produits des États-Unis d'Amérique. Alors, ça touche, excusez-moi, le soja, le maïs, il y a les bagnoles, il y a aussi des avions, enfin, pas tous, mais une partie. Ça, c'est ce qui a été annoncé hier, hein, par le ministère des finances chinois, mais il faut savoir que dimanche déjà, Pékin avait pris quelques décisions aussi sur une mise en place de droits de douane sur 128. Alors c'est des droits de douane qui peuvent atteindre 25%, hein, quand même, c'est important, c'est là, hein, la guerre elle est là-dessus, hein. Sur 128 produits des États-Unis d'Amérique, alors il y avait la viande de porc, le vin.
Oui, parce que la Chine importe beaucoup de porc, elle importe aussi des produits pour la médecine chinoise qui sont cultivés aux États-Unis d'Amérique.
Voilà.
Il y a un enjeu économique important pour l'agriculture américaine. Alors, en fait, pour l'instant.
Il faut savoir que du côté du Bureau des représentants américains en commerce, on appelle ça l'USTR avec l'acronyme, avait annoncé des droits de douane qui peuvent atteindre 25% pour 1300 produits technologiques chinois. Donc là, l'idée de M. Trump et de ses équipes, c'est que avec la Chine, ça suffit. La Chine vole notre technologie. Je m'exprime comme lui d'une manière extrêmement simple. Et que donc, il faut arrêter de commercer simplement avec la Chine. Il faut empêcher le vol. Voilà. Donc, il faut savoir que du côté de la Chine, on a exclu des produits comme Apple, par exemple, certains produits comme des ordinateurs portables de Dell.
Parce que tout est fabriqué en Chine. Du coup, s'ils refusent de les acheter eux-mêmes, ils ne pourront plus les exporter non plus.
Oui, et puis enfin voilà, il y a des produits qui ne touchent pas non plus les États-Unis. Enfin bon, voilà, il y a certaines choses qui sont exclues de ces augmentations de droits de douane. Alors du côté des États-Unis d'Amérique, on a utilisé un algorithme pour choisir les produits affectés par ces augmentations des droits de douane. L'idée, c'est d'éviter de toucher trop le consommateur et la consommatrice des États-Unis d'Amérique. Il faut quand même arriver à ce qu'il y ait quand même toujours un petit peu des possibilités d'achat et de consommation sur le territoire.
Il faut quand même savoir qu'il y a une grosse partie des Américains qui sont pauvres, et sans les produits chinois super pas chers, ils ne survivraient pas, ces gens.
Donc tout ça est quand même fait avec un petit peu de réflexion, s'il s'agit aussi d'une guerre médiatique diplomatique portée par les deux autorités américaines et chinoises. Il faut dire que du côté de la Chine, on a un grand programme qui s'appelle Made in China 2025, je vous le dis en français pour la date. Là, l'idée, c'est d'être très très fort sur l'informatique, la robotique, tout ce qui est avions, les véhicules, les produits pharmaceutiques, le matériel électrique, les équipements agricoles, enfin tout un tas de produits. La Chine veut devenir une grande puissance sur des secteurs qui, évidemment, ramènent de l'argent. Ils sont pas bêtes, du côté de la Chine. Donc, on a du côté de M. Trump et de ses équipes une réaction un peu brutale, il faut bien le dire, puisque M. Trump allait taper sur le monde entier, et puis se retrouve à taper finalement sur la Chine. Mais on le sentait de venir, parce que ça faisait quand même quelques mois qu'il y avait du bisbille et de la discussion. Et puis qu'en plus, pour M. Trump, il est facile de taper sur l'ennemi chinois, j'allais dire, le rouge. Parce que M. Trump a un petit peu des caricatures dans son cerveau. Voilà, je vais m'arrêter là.
Bon, on va rester en Chine.
Et oui.
Avec la mise en place de ce que la Chine avait annoncé depuis un moment, c'est-à-dire on va bloquer tous les VPN. Les VPN, c'est les réseaux privés virtuels qui permettent de sortir de la censure chinoise. Il y a ce qu'ils appellent le Great Firewall of China. C'est des logiciels qui pour tous les Chinois, quand ils font un accès à Internet et que ça passe à l'étranger, et ben permet de bloquer ou de laisser passer les choses que le gouvernement a décidées. Hein, si vous êtes déjà allé en Chine, vous savez très bien que Google, Facebook, Twitter, YouTube, Le Monde, par exemple, enfin voilà, il y a plein de médias et d'entreprises capitalistes qui sont bloquées en Chine. Les VPN permettent de contourner cette censure, puisqu'en fait, quand on fait un accès avec un VPN, ça passe à travers un intermédiaire qui change l'adresse de l'endroit où on va et de l'endroit d'où on vient, et du coup la Chine ne peut pas savoir que vous êtes allé sur Le Monde voilà, bon, ou sur Le Monde ou sur Google. Et bien ça va être fini, hein, puisque ça y est, promulguée le 31 mars dernier, cette nouvelle loi anti-VPN rentre en action. Donc ils vont bloquer très majoritairement tous les VPN, ils vont en laisser quelques-uns, ce qui laisse entendre que ceux qui vont laisser, ils vont les contrôler, du coup il n'y aura pas beaucoup d'intérêt. Alors ce qui est intéressant, c'est que c'est une attaque contre la liberté, mais ça, bon, on s'en fout, hein. Il n'y a aucune liberté en Chine, il faut arrêter d'imaginer des choses. C'est très très compliqué pour les opposants de vivre en Chine. Hein, on a vu il n'y a pas longtemps, ils ont mis une note sociale à tous les habitants, tous les Chinois du pays, hein, ce qui est beaucoup, hein. ils sont plus de 1 milliard d'eux. Et là, bon, c'est les attaques à la liberté, la Chine, c'est partout. Non, mais ce qui est marrant, c'est que ça va aussi bloquer le business, parce qu'il y a plein d'entreprises chinoises qui contournent avec des VPN tous les blocages. Bah, pourquoi ? Parce qu'elles aiment bien vendre des trucs grâce à Facebook, grâce à plein de choses comme ça. Donc, on ne sait pas comment ça va se passer. Alors, il y a quand même des chances que les VPN...
Adaptent, non ? Que ça va s'adapter, non ? Des nouveaux, non ?
Non, alors, il y aura sûrement des nouveaux moyens de contourner, mais ça devient compliqué, hein, parce que il faut sortir de la Chine. Et là, il y a un vrai contrôle. Le firewall chinois, il contrôle tout ce qui passe. Donc, ça risque d'être un peu compliqué. Mais par contre, pour les entreprises, les VPN autorisés vont alors peut-être... ils vont signer des contrats. C'est des trucs qui vont coûter beaucoup plus cher, hein, que ce que ça coûte maintenant. Ça coûte pas cher du tout, un VPN. Et du coup, ceux-là, ils permettront peut-être d'avoir accès à certains sites comme Facebook pour faire du business. En fait, il y a des chances que ça s'oriente de ce côté-là. Donc, pas de liberté politique, par contre un petit peu de liberté de commerce quand même, parce qu'il faut pas trop brimer. Enfin voilà, c'est le bon, un nouveau truc anti-liberté de la Chine, bon, c'est un de plus, vous me direz, mais c'est l'étape supplémentaire. Ils l'avaient annoncé déjà l'année dernière, hein, ouais. Et ils ont mis du temps à la mettre en place, cette loi anti-VPN.
Alors écoute, comme j'ai vu que tu faisais ça, ce sujet sur la Chine, j'ai sorti un article d'actualité.com, peut-être que vous connaissez ce site qui parle de littérature, donc tout ce qui touche à la littérature, évidemment des sorties, mais aussi toutes des choses politiques, d'une actualité très très large. Alors vous savez que dans cette émission, on est rationaliste, mais on estime quand même, en tout cas moi c'est fortement mon avis, que c'est à nous de décider si on est croyant ou pas, et certainement pas à un gouvernement, et en Chine c'est bien l'État qui décide si vous avez le droit de croire ou pas. Vous savez qu'en ce moment, il y a des discussions avec le Vatican pour que le Vatican puisse reproposer ses chefs religieux en Chine, puisque jusqu'à présent, ce sont les autorités chinoises qui proposent les chefs catholiques, de la même manière que c'est les autorités chinoises qui proposent le Dalai Lama.
Voilà, hein, le faux, là.
Le faux.
Et puis, tous les chefs bouddhistes chinois, tout ça, la religion n'est pas interdite en Chine, hein, contrairement à ce qu'on aurait pu imaginer d'un régime communiste.
Mais elle est cadrée.
Mais elle est encadrée.
Et, alors d'ailleurs, c'est marrant, puisque actualité.com nous apprend que depuis le 30 mars, il est très très difficile pour les internautes chinois d'acheter une Bible sur Internet. C'est-à-dire que la Bible disparaît des plateformes de vente en ligne. Il paraît qu'il y a un livre blanc qui a été sorti par les autorités chinoise qui s'appelle « Politique et pratiques chinoises sur la protection des croyances religieuses ». Déjà, rien que le titre, ça fait peur. Encore une fois, nous, on est rationalistes, mais moi, je reste persuadée que c'est aux gens de choisir s'ils croient ou pas. Et c'est par le débat, la confrontation d'idées que les choses, à notre avis, peuvent évoluer. Bah, certainement pas au gouvernement de choisir.
Voilà. Et puis la répression, au contraire, encourage le développement.
Je ne sais pas ça. Peut-être qu'on peut en faire une thèse sur cette question-là. Mais en tout cas, ça sert la Chine, effectivement, réprime certains groupes religieux. Alors ce document explique que les communautés religieuses du pays, je cite, « devraient respecter l'administration locale de la religion, pratiquer des valeurs fondamentales du socialisme, développer et étendre la belle tradition chinoise, explorer activement la pensée religieuse qui correspond aux circonstances nationales de la Chine. » En soi, tout un programme, c'est-à-dire rentrer chez vous avec votre Bible. Voilà, donc c'est aussi ça la censure en Chine, c'est-à-dire que ceux qui sont croyants et croyantes ne trouvent plus leur ouvrage et ne peuvent plus l'acheter. Parce qu'il y a une répression.
Oui.
Voilà. Bon, c'était juste pour la petite info.
Je m'en fous.
Ah non, parce que ça veut dire que c'est pas un gouvernement de décider qui croit ou pas. Par exemple, en France, nous, ce qu'on attend, c'est que l'État mette en place un État laïque et que cet État laïque soit défendu, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.
Tout à fait. Alors, j'avais donné une petite info qui va durer une demi-seconde. C'était, mon titre, c'était quand la France applique la peine de mort au Mali. Vous savez que la France, normalement, a arrêté cette horreur qui s'appelle la peine de mort.
Ah, normalement, nous, la France ne pratique plus la peine de mort.
Ah, ben
France.
Là, j'ai une preuve que.
Sur
non,
son territoire, en tout
puisque,
cas.
Voilà, puisque la France est allée tuer 30 personnes hier. Alors, vous allez me dire, ouais, c'est dans le cadre d'une guerre. Ben ouais, je suis pas sûr qu'on soit en guerre contre le Mali. Alors, si, c'est la guerre contre le terrorisme. Hein, vous vous rappelez des phrases de Pasqua, là, nous devons tout mettre en œuvre, enfin bon, voilà, tout ça. Donc oui, la France assassine à l'étranger, donc là, 30 personnes suspectées d'être des djihadistes, hein, parce qu'il n'y a pas, il faut savoir que c'est une peine de mort guerrière, c'est-à-dire qu'on n'interroge pas les gens, on ne fait pas une enquête policière, il n'y a pas des juges qui décident qu'eux, ils sont terroristes ou djihadistes. Non, ils avaient des gueules de djihadistes. L'armée française est intervenue avec l'armée malienne, hein, dans cette région instable au possible qu'est le nord du Mali, et ils les ont tués. Point. Voilà. Et la France se glorifie. Alors moi, ce qui m'énerve, c'est que la France se glorifie. Nous avons tué 30 djihadistes. Voilà, c'est simple. La France est contre la peine de mort, sauf quand ça se passe au Mali et que c'est des soi-disant des méchants. C'était peut-être des méchants. On rappelle qu'aucun méchant ne mérite la peine de mort. Et deux, on n'a aucune preuve que ça soit des méchants. Ça se trouve, c'était pas du tout des djihadistes. Parce qu'il faut les croire sur parole. Je vous rappelle que quand l'armée dit quelque chose, on dit oui, monsieur. Hein, voilà. Donc c'était juste ça, ma petite info sur la. Voilà. La France qui assassine.
Je vais poursuivre encore avec la religion, la croyance et le rationalisme. Alors je fais écho à la fois à notre émission de la semaine dernière et à la fois à l'émission que j'ai menée avec Jean-Yves, où nous avions eu le plaisir de recevoir des membres du festival Hallucination Collective, qui s'est tenu donc jusqu'à lundi au cinéma Comédia, donc dans le 7e. Ouais. Nous avons été voir un film japonais ensemble, et moi j'ai eu le bonheur, la joie de participer à cette soirée Chic Coréa qui a eu lieu le vendredi soir avec deux films d'affilée. Le premier, Welcome to Dongmakol de Park Kwang-yoon, sans l'accent bien évidemment. Mais je vais vous parler surtout de The Fake de Yeon Sang-ho. Si je vous en parle, c'est qu'il va sortir en DVD le 9 mai prochain. Ce qui veut dire que vous allez pouvoir le regarder en plus légalement. Bon, on va pas se mentir, quand un truc sort en DVD, ça veut dire qu'on le trouve sur des sites de téléchargement. Et si je vous en parle, c'est aussi parce que Yeon Sang-ho, nous avions commenté ici dans cette émission l'un de ses films, c'est-à-dire Le Dernier Train pour Busan.
Un excellent film de zombies.
Ouais, et alors il faut savoir que ce réalisateur donc sud-coréen avait fait un film d'animation qui s'appelle Seoul Station. C'est un moyen-métrage d'animation qui parle de zombies et qui était une proposition avant Le Dernier Train pour Busan. Un dessin que moi j'aime beaucoup et qui date de 2016, hein, juste avant Le Dernier Train pour Busan. Et ce réalisateur nous a proposé, parce que le film en fait est vieux, hein, il date de 2013, il avait été présenté au Festival International du Film de Toronto, mais The Fake a remérité une sortie ici, hein, dans nos salles françaises, ça n'a pas été le cas, mais il sort en DVD. The Fake, c'est un film d'animation, donc sud-coréen, qui aborde la question de la religion. Alors pour vous raconter, on se retrouve dans un village qui va être englouti par les flots pour laisser la place à un barrage, comme souvent, hein, vous savez, on rase tout. Et donc les habitants, sont dans un état de choc, doivent tout abandonner, qu'est-ce qu'on va faire? Et là, il y a un escroc qui arrive. En tout cas, le réalisateur nous pose directement, il est assez clair, hein, dans son propos, comme tel, et est accompagné d'un prophète. Et ce prophète peut guérir les gens, peut améliorer la vie des gens, et l'escroc est recherché. Et il y a un homme qui va se rendre compte, Minchul, qui va se rendre compte que l'autre c'est un manipulateur, et qu'en plus il est déjà recherché par la police pour d'autres affaires, et qui lui va bien voir qu'il y a anguille sous roche et que ça va pas se passer. Sauf que Minchul, en fait, c'est un vrai salopard. C'est un salopard, c'est un homme violent, alcoolique, qui n'est aimé par personne, qui revient et qui vole les épargnes de sa fille, qui tape sa femme, sa fille, et donc il n'est pas aimé par les gens du village. Et évidemment, il va tenter de démontrer un petit peu que l'autre est un escroc. Mais la vérité, c'est que dans The Fake, tous les personnages sont des salopards. Il faut bien le dire, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. C'est un film très très noir, déjà moi je trouve que niveau de la couleur c'est très très beau, c'est un dessin très simple mais très très beau, les personnages ont beaucoup d'expression, donc il n'y a pas un personnage pour attraper l'autre, on parle de violence, d'avidité, de méchanceté, d'escroquerie, donc je vous parle de ce personnage violent et alcoolique qui vole le pécule de sa fille, de cet escroc qui vole l'argent de ses croyants, qui espère le salut, le paradis, qui espère se sauver tout simplement, de cette épouse malade qui ordonne à son mari aimant de verser leur épargne aux prophètes pour pouvoir guérir. Et donc on a quand même le vice, ce pognon qui est la source de tous les malheurs. Et puis ça nous parle aussi de ces évangélistes extrêmement présents en Corée du Sud. Ouais. On y voit cette croix rouge lumineuse. Il y en a plein Séoul, il y en a plein Busan, il y en a plein dans les campagnes entre croix rouge et croix blanche selon les évangélistes et les catholiques. Et donc c'est un film très très noir, très intéressant parce qu'il y a une très belle critique cette croyance où les gens par nécessité de se sauver ne réfléchissent plus du tout et donnent leur vie entière et tout leur pognon, il faut bien le dire, à cet escroc accompagné de son faux prophète. C'est un très très beau film que je vous invite à regarder. Ça va sortir donc le 9 mai prochain en DVD. C'est Spectrum Film qui va nous proposer cette sortie. Et puis vous pouvez donc revoir Dernier Train pour Busan si vous ne l'avez pas vu, parce que c'est un bon film de zombies à la sauce coréenne. Seoul Station qui est un film d'animation, c'est pas son premier hein, à Yong Sang-ho, mais ça vaut le petit coup d'œil parce que c'est un film qui est c'est pareil, les gens sont tous des salopards, il n'y a personne pour sauver les autres, ce qui n'est pas tout à fait le cas hein, dans Dernier Train pour Busan.
C'est un film positif. Alors,
oui, il y a quand même beaucoup de gens qui sont prêts à écraser les autres pour éviter de se faire niaquer par le zombie.
Ça s'appelle le monde libéral, ça, si tu veux.
Oui, je trouve que The Fake répond aussi à cette avidité. Et en fait, le fond du problème, c'est la croyance et le pognon qui sont deux grosses problématiques.
Alors, je vais faire une grosse rubrique sur l'énergie et l'environnement aujourd'hui. Je vais commencer par deux petites infos que j'ai appelées la France et EDF ridiculisées par le Portugal et la Belgique. Alors, on va commencer par le Portugal qui ridiculise totalement Macron, ses amis EDF et tous les autres, puisque EDF, au mois de mars, a augmenté énormément sa production d'énergie électrique propre, on va dire, grâce aux éoliennes et à l'hydraulique, et il me semble que c'est ça, c'est les gros apports de ce mois de mars, puisqu'ils ont produit 103,6% de l'électricité dont ils avaient besoin, c'est-à-dire qu'ils en ont produit plus, 103,6% d'origine renouvelable. On rappelle que EDF refuse de s'engager dans cette voie-là en France, parce qu'il le fait à l'étranger, parce que c'est trop compliqué, tout ça, on ne sait pas faire. Un pays comme le Portugal, qui est beaucoup moins riche, mais voilà, qui démontre qu'en fait, avec une volonté, on y arrive. Alors ils battent leur propre précédent record, qui était de 99,2% d'électricité d'origine renouvelable. C'était en février 2014. Alors c'est pas tous les mois. Ça nous rappelle que le Portugal n'est pas encore totalement autonome, hein, puisque même pendant ce mois de mars, où sur tout le long, ils ont eu au final 103,6%. En fait, il y a des hauts, il y a des montées, à des moments ils produisent plus, à des moments ils produisent pas assez. Quand ils produisent pas assez, soit ils importent de l'électricité. C'est le principe des interconnexions des réseaux en Europe, hein, où les pays s'équilibrent comme ça les uns les autres. Soit ils remettent en route des centrales avec des hydrocarbures. Je sais pas ce qu'ils ont au Portugal, c'est du gaz ou du fuel ou du charbon. Donc c'est pas encore parfait, mais en tout cas sur la moyenne du mois, ils ont produit plus d'électricité renouvelable qu'il n'en fallait par rapport à la consommation totale du pays. Donc voilà, très très bon score. C'est un truc assez incroyable. Et il faut savoir que en plus c'est à des prix bien moins élevé que le marché actuel, ce qui démontre une fois de plus que non seulement 100% de renouvelable est possible, mais en plus avec un coût moins élevé. Et alors, la Belgique vient de mettre une énorme claque à la France. C'est pas encore officiel, mais ça va arriver, parce que le gouvernement fédéral de Belgique a signé il y a quelques jours, le 30 mars dernier, un accord pour fermer toutes les centrales nucléaires du pays. C'est pas mal. Alors la Belgique, c'est un tout petit pays. Enfin, c'est un peu plus petit que la France. Beaucoup plus petit que la France. Ils avaient 7 centrales nucléaires. Elles vont toutes fermer d'ici 2025. Ils vont. Alors aujourd'hui, donc ça a un peu baissé, hein, mais aujourd'hui, il y a à peu près 40% de l'énergie électrique qui vient du nucléaire en Belgique. C'est le quatrième pays en Europe là-dessus. Bon, la France est le premier avec plus des trois quarts de l'énergie électrique qui est fabriquée par les centrales nucléaires. Alors ils vont notamment fermer les deux plus grosses centrales, Doel et Tihange, qui à elles deux font 50% de l'électricité nucléaire belge. Donc ça c'est une très très bonne nouvelle, et surtout ça a un double effet, on va dire un effet qui se coule, pour pas me citer une marque célèbre de bonbons, puisque non seulement ça montre qu'ils vont dans le bon sens, mais ça va impulser en fait le développement des autres énergies, notamment les renouvelables. Et c'est l'idée qui est derrière cette loi. Ça s'appelle la stratégie énergétique pour 2030. Donc c'est une très très bonne nouvelle. Alors ce qu'on sait en fait, c'est que ça va être fait de manière assez simple. Ils vont pas envoyer d'ordre de fermeture des centrales. C'est plus intelligent que ça, ce que ne peut pas faire la France, parce que voilà, la France, tout est politique, tout est blindé, c'est l'État qui décide, il n'y a aucune démocratie, etc. En Belgique, a priori, c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus démocratique, beaucoup plus ouvert, puisqu'en fait, Doel et Tihange, leur autorisation s'arrête en 2025. Et l'État a prévu de ne pas renouveler l'autorisation. Vous savez qu'EDF se bat pour essayer d'avoir des centrales qui vont durer des millions d'années, hein, enfin peut-être pas, mais au moins 60-70 ans. Ben là, on sait d'avance, et je pense que du coup les propriétaires des centrales ne demanderont pas l'autorisation, que l'État va dire, ben non, en 2025, on renouvellera pas l'autorisation, donc elles seront obligées de fermer d'office. Ils annoncent ça à l'avance, hein, pour que les entreprises, parce que c'est des entreprises privées, hein, qui détiennent, c'est Electrabel et d'autres qui détiennent les centrales nucléaires, commence à s'engager vers une transition énergétique. Alors, faut savoir que ces deux centrales-là, sur les sept, hein, sont particulières, hein, parce que d'abord, elles sont pas loin d'autres pays, notamment antinucléaires, hein, comme l'Allemagne, et que c'est des centrales vieilles, hein, comme celles qu'on a juste à côté de chez nous, du Bugey, qui ont moult accidents tous les ans. Même si pour l'instant ça n'a pas pété style Fukushima ou des choses comme ça, mais c'est pas loin. Pas Fukushima. Fukushima, c'est une bombe atomique. Si, c'est Fukushima Daiichi. Voilà, je cherchais le vrai nom de la centrale Daiichi. Donc voilà. Alors, faut savoir que il y a eu une prise de conscience des Belges quand justement après l'accident nucléaire japonais, ils se sont dit, il faut qu'on protège sur un rayon de 100 km autour de la centrale nucléaire. Et ben en fait, quand ils ont regardé les 7 centrales qu'ils ont, ils sont obligés de protéger tout le pays. C'est énorme. Et donc, du coup, ils distribuent des pastilles d'iode dans un rayon de 100 km. Alors, je vous rappelle, pour ceux qui auraient oublié, la centrale nucléaire du Bugey avec les différents réacteurs qu'il y a là-bas, c'est 30 km à vol d'oiseau de Lyon. Donc, si l'État français assumait un rôle de prévention des accidents et de sécurité, il devrait distribuer à toute la ville de Lyon, donc plus d'un million d'habitants, hein, le Grand Lyon, des pastilles d'iode.
De métropole, hein, tu sais.
De métropole,
c'est un peu vieux là-dessus.
S'il le faisait, c'est-à-dire que si l'État tenait vraiment à notre santé, on est sûr que la population lyonnaise prendrait conscience des dangers du nucléaire, ce qui n'est pas le cas, puisqu'aujourd'hui, on la voit quand on est à la Croix-Rousse, mais sinon, on ne la voit pas, cette centrale à 30 km. Donc voilà. En tout cas, la Belgique et le Portugal ont démontré à la France que tout ce que la France dit à travers EDF, à travers son gouvernement, est totalement faux, puisque eux, ces deux pays, démontrent qu'on peut faire le contraire de ce que dit la France. Allez, une bonne nouvelle quand même sur la France. On va parler de la Cour des comptes. Alors, la Cour des comptes, a fait une enquête sur l'aide publique à la rénovation énergétique. Alors, la Cour des comptes, elle enquête sur l'utilisation des fonds publics. Elle est en général très critique. Elle allume tout le monde. En général, quand on passe par la Cour des comptes, on se fait laminer. Et bien là, c'est l'inverse. Donc, c'est tout un programme d'aide qui a été mis en place il y a un petit moment et qui donne de l'argent à des gens qui veulent faire de la rénovation énergétique chez eux. Et la Cour des comptes regarde l'efficacité du dispositif. Et il constate que le dispositif est efficace, marche bien et est très utile. Alors ils font une analyse plus large que ce que je viens de dire. D'abord, ils constatent qui est touché. Donc c'est un des dispositifs qui sont surtout pour des propriétaires pauvres. Hein, des gens qui ont des maisons construites dans les années 60-70, mais qui n'ont pas d'argent pour les rénover, donc ils ont besoin de cette aide. Enfin, ils expliquent tout le dispositif. Alors ils disent que c'est beaucoup plus efficace que ce qu'ils croyaient. Alors ils disent des ménages très modestes à 83%. Hein, donc ça veut dire que l'argent public est bien utilisé à bon escient pour aider ceux qui n'ont pas les moyens. Et ils mesurent l'efficacité énergétique. L'objectif de la mesure, c'était de faire gagner 30% d'efficacité énergétique. Et en fait, les mesures après la pose des différents éléments, l'amélioration, on est à 43% de gains énergétiques. C'est-à-dire que les gens qui isolent arrivent à consommer 43% d'énergie en moins. C'est beaucoup. C'est beaucoup et pas beaucoup, en fait. C'est juste que les immeubles qu'on a, nous, par exemple celui dans lequel est Radio Canut, c'est des passoires énergétiques, des passoires thermiques. Et donc c'est assez facile de les isoler, ces immeubles. Alors à la Croix-Rousse c'est compliqué parce qu'on a les bâtiments de France qui limitent, mais il y a des possibilités, hein. Mais alors les gens concernés sont des gens qui sont hors UNESCO, classement UNESCO, des choses comme ça. C'est très facile à faire, hein, l'isolement notamment par l'extérieur, et c'est très efficace. Alors il y a plein d'exemples et d'explications de la Cour des comptes là-dessus, qui donc incitent à continuer ce dispositif. Alors ils disent qu'il y a une limite quand même d'utilisation pour le parc privé de logement qui est moins bien touché, enfin pas autant qu'il le devrait. Ils expliquent parce que en fait depuis que c'est cette loi d'aide à la rénovation énergétique, à l'amélioration énergétique de l'habitat a été mise en œuvre, tous les 6 mois, tous les ans, il y a plein de changements. L'argent obtenu monte, baisse, du coup c'est pas stable, du coup ça limite un petit peu les choses. Ils expliquent que c'est moitié des retraités, moitié des actifs, hein, qui sont touchés, essentiellement, donc on l'a dit, à 83% des personnes modestes, voire très modestes en fait, ils disent. Donc voilà, c'est pour une fois, la Cour des comptes valide un dispositif d'argent public qui sert à la population. Et ben c'était plutôt pour dire un truc positif. Et c'est l'avenir en fait, hein. L'avenir c'est pas forcément de changer de modèle énergétique surtout, là, à part virer le nucléaire et des trucs comme ça, mais la première action qu'on peut faire c'est l'économie d'énergie, et le potentiel il est de 50% à peu près, hein. Il est énorme, donc voilà, c'est une bonne nouvelle. Alors, une mauvaise nouvelle, parce que pendant que les Belges ferment leurs centrales, enfin décident de fermer les centrales, EDF continue, et 3 intervenants employés par une entreprise sous-traitante d'EDF, vous savez, ces employés à la dose, là, qui prennent les doses de radioactivité à la place des salariés d'EDF, et ben ils ont inhalé des particules radioactives, c'était dans la belle centrale de Flamanville. Et l'unité de production numéro 1, vous savez qu'à Flamanville on construit l'EPR, mais il y a une vieille centrale à côté, enfin une ancienne centrale. Alors bien sûr on nous dit que c'était une inhalation de produits extrêmement faiblement radioactifs et qu'il va y avoir un suivi médical, etc. On rappelle que quand on inhale une particule radioactive, même faiblement radioactive, le potentiel destructeur est immensément plus important que quand on s'approche d'une source de radioactivité, puisque la particule on la garde en soi, et que suivant où elle est, même si c'est une petite particule, elle peut avoir un impact sur la santé qui est très important. D'ailleurs il y a très peu d'études qui ont étudié ça, parce que c'est pas le premier problème de l'industrie nucléaire. Souvent les travailleurs n'inhalent pas de particules radioactives, ils s'approchent d'éléments radioactifs. Mais voilà, contrairement à ce que dit EDF, ça peut être un truc potentiellement très dangereux pour les salariés d'inhaler des particules radioactives. Et puis, alors je vais faire très très bref. Tu parlais du Japon tout à l'heure. Il y a une très mauvaise nouvelle qui est tombée sur le Japon. C'était tombé mercredi 28 mars. Ils ont décidé de l'arrêt d'une centrale nucléaire un peu problématique qui s'appelle Monju, et qui donc ils lancent le démantèlement de cette centrale. Pourquoi c'est problématique? Parce que Monju c'est un surgénérateur. Si vous vous rappelez, les surgénérateurs c'était des centrales nucléaires qui ne consommait pas les barres comme combustible, les barres d'uranium enrichi qu'on a dans les centrales classiques, mais qui consommait du MOX. Le MOX, c'est un combustible qui est fabriqué à partir du combustible usagé des centrales traditionnelles, qui est retraité, remélangé pour fabriquer ce MOX qui contient notamment beaucoup de plutonium. Et avec ces centrales au MOX, on alimente ces nouvelles centrales avec ce combustible et on obtient à la fin plus de combustible qu'on en avait au départ. C'est pour ça que ça s'appelait des surgénérateurs. C'était un peu le Graal du nucléophile dans les années 70. Et alors ça coûte énormément cher, puisque la centrale japonaise qui est concernée, elle a coûté 8 milliards d'euros. Donc c'est plutôt pas mal. Elle n'a quasiment jamais fonctionné, comme un peu Superphénix en France. Il y a eu une grosse fuite de sodium. Alors vous savez peut-être pas, vous rappelez peut-être pas. En fait, la problématique de ces centrales, c'est que c'est dangereux parce que c'est du nucléaire, etc. Mais le plus dangereux dans ces centrales nucléaires, c'est la partie non nucléaire, c'est le sodium liquide qui sert à transporter l'énergie. Et le sodium liquide, c'est un produit qui s'enflamme à l'eau, c'est-à-dire à l'air, puisqu'il y a de l'humidité dans l'air. Il faut savoir qu'on sait éteindre aujourd'hui un feu de 150 kg de sodium. Au-dessus, on ne sait pas éteindre, ça brûle indéfiniment, ça explose. Et dans les centrales nucléaires sur générateur, c'est en milliers de kilogrammes ou de sodium liquide. Donc ils ont eu des fuites, ils ont eu plein de problèmes, il y a eu plein d'incidents. Donc voilà, ils abandonnent, ils annoncent officiellement qu'ils abandonnent la filière et qu'ils démantèlent la centrale, comme normalement en France, Superphénix est en cours de démantèlement. Il leur reste un tout petit surgénérateur expérimental. On pense qu'ils vont vraiment abandonner cette filière-là, comme tous les pays quasiment ont abandonné cette filière nucléaire-là. Ce qui énerve certains nucléophiles au Japon qui espéraient beaucoup de relancer le nucléaire, notamment avec cette filière qui leur permet d'arrêter d'être dépendant de l'uranium qu'il faut aller chercher dans des mines, etc., etc. Bon, vraisemblablement, ça marche pas bien non plus au Japon, les surgénérateurs.
Alors, on va terminer très très rapidement avec une interrogation ce soir, je vais vous laisser. Vous savez qu'il y a un mouvement hashtag Dilette Facebook que j'interpréterai personnellement par dièse barre-toi de Facebook. Bon, si vous nous écoutez de temps en temps, vous savez que personnellement je n'ai pas de profil Facebook, que je tape assez fréquemment sur cette multinationale et que dans cette émission on a le même avis mais pas la même pratique. Hein, c'est-à-dire que je ne dénoncerai pas mon petit camarade qui se balade avec son profil Facebook et sa page Facebook, mais je le dénonce un peu quand même d'une manière tout à fait détourné. Donc, vous savez qu'il y a donc un mouvement, que Facebook est accusé de ne pas avoir protégé les données de plus de 50 millions d'utilisateurs à cause d'une petite application mise en place par une société de conseil, Cambridge Analytica. Je vais y arriver, que tout ça s'est fait pour des fins politiques, comme ces derniers temps, quand on accuse Facebook de tout un tas de trucs. Et alors, il y a des gens qui tentent de s'en aller de Facebook. On a des articles larmoyants dans la presse française. Peut-on quitter vraiment Facebook? Bon, bah déjà, moi, j'y suis jamais allé. Donc, c'est bien la preuve que j'ai une activité sociale, professionnelle, humaine. Je vais bien, vous voyez. Je suis quelqu'un de tout à fait sereine. Tout va bien. Donc, en fait, j'ai appris que la Caisse nationale d'assurance vieillesse quitte Facebook. Donc on a appris dans un communiqué que, compte tenu des interrogations sur la gestion des données par Facebook, la Caisse nationale d'assurance vieillesse désactive sa page Facebook ouverte depuis 2011.
Mais qu'est-ce qu'il faisait sur Facebook?
C'est bien la question que je veux soulever avec vous qui nous écoutez ce soir et avec toi. C'est qu'il y a tout un tas de structures qui sont sur Facebook et on se demande bien pourquoi. D'ailleurs, je vous rappelle que tout un tas d'entreprises sont sur Facebook et c'est bien là où ce n'est plus un réseau social, mais bien un réseau commercial. Il faut appeler les choses par leur nom. C'est une multinationale qui utilise vos données, je dis bien vos données, pour faire du pognon. Bon, le problème, c'est que Facebook est accusé aussi de récolter les données de gens comme moi qui ne sont pas sur Facebook parce que vous avez le petit bouton Facebook, vous savez, la petite icône sur certains articles. Et maintenant, ça peut vous tracer. L'Allemagne avait attaqué. Je vous signale que Mozilla sur Firefox a sorti un nouveau petit bidule
qui bloque
cette petite chose. C'est donc à installer de toute urgence si vous voulez vous protéger. Mais du moment que vous avez un profil Facebook, c'est mort. Hein. De toute façon, ouais, vous ne pouvez vous protéger de rien. Mais voilà, c'est une question que je soulève, que vous pouvez aussi dimanche, entre le rôti et donc le gratin d'endive, poser à vos proches et leur demander pourquoi vous êtes encore sur Facebook et est-ce qu'il faut encore y être. Et c'est une réalité aujourd'hui. Vous êtes tous, beaucoup, en tout cas pas tous et toutes, mais beaucoup, à être sur Facebook. Pourquoi remettez-vous en question de petites seconde.
Alors, on va faire un petit agenda. Je vais commencer par samedi où il y a pas mal de choses. Donc, d'abord, on va commencer de parler de François Guillemot, plus connu sous le nom de François Berru, hein, vous savez, l'ancien chanteur des Berru et Noirs.
C'est pas la raison qui doit vous amener à aller
non,
sur
Non, parce que c'est pas du tout autour Rien de la musique du punk et des Berru, puisque c'est un spécialiste du Vietnam. Alors, on se rappelle dans les Berru, Vietnam, Laos, Cambodge, tout ça là. Il est universitaire, hein, il est prof à l'ENS. Il a écrit un livre qui s'appelle Vietnam, fracture d'une nation, une histoire contemporaine de 1858 à nos jours, qui est sorti à La Découverte en 2018. Et il vient le présenter à 15h samedi à la librairie Terre des Livres dans le 7e. Donc voilà, si vous êtes intéressé, c'est intéressant. Si vous voulez dire bonjour à François, vous y allez quoi. Sinon, à la Griffe, toujours samedi, toujours à 15h aussi. Un débat autour d'un livre, mai 68 à Lyon. Et puis samedi, à 15h aussi en même temps, là il faut faire des choix. Place des Terreaux, manifestation contre le projet de loi asile-immigration de Gérard Collomb et son ami Emmanuel Macron. Et puis un petit peu plus loin, on va aller au vendredi 13 oui. à la CNT.
Alors c'est Tiens bon la pente, l'association de quartier des pentes de la Croix-Rousse, qui va occuper la CNT. Enfin précisément, Tiens bon la pente va réouvrir le cafeton qui était très cher à notre ami Bibi. Ça sera le vendredi 13 avril à 19h. Nous en profiterons pour percer des fûts, festoyer, pour parler antifascisme, pour dire non pas Saran, et puisque l'idée de Tiens-moi la pente, c'est que tous les bénéfices aillent en soutien au syndicat de la CNT 69. On espère que nous serons nombreux et nombreuses à venir à ce moment. C'est aussi un moment pour nous de se souvenir de notre ami Bibi, qui a voilà. beaucoup fait vivre ce cafeton.
Voilà, qui nous a quittés il n'y a pas longtemps et qui était militant à la CNT. Donc en plus, c'est une soirée de soutien à la CNT, en plus.
Voilà, viendez donc pendant les vacances occuper votre vendredi soir.
Est-ce que le camarade est prêt à rediffuser ce qui se passe sur Radio Dio ?
Tout à fait, du coup, ce soir sur Radio Canu, du coup, la petite cuillère rediffuse ce de Radio Dio, du coup, l'émission Papillon, émission anticarcérale de Saint-Étienne. Et on envoie ça tout de suite.
Ciao, ciao.
Ciao.